Bonjour! Bonjour tout le monde! Bonjour, comment ça va? Incroyable! Ça va bien? Tout roule? Si vous connaissez l'artiste qui a fait le son du générique de Backseat, partagez-le. Il s'agit d'un compositeur qui s'appelle The Toxic Avenger. Voilà, The Toxic Avenger. Artiste immense qui a commis le générique de Backseat. Voilà. Bien cordialement. Tout à fait. Tout à fait. Il a travaillé avec Orelsan. Ouais, je sais. Ouais. Ça va, vous? Ça roule? Moi, j'ai toujours un peu la tête dans le vague le lendemain de Backseat. Parce que c'est très fatigant, Backseat. Et non, je me colle pas une murge systématiquement après Backseat. Faut arrêter cette légende, c'est pas vrai. Même si ça peut arriver. Mais là, c'était pas le cas. Et c'est quand même beaucoup la fatigue. Il y en a qui disaient qu'il y avait une allocution de Trump à 17h. C'est quoi cette histoire? C'est une allocution, c'est une interview, c'est un discours, c'est quoi? De quoi il va parler, tout ça, tout ça, tout ça. Je sais pas, moi je suis pas au courant, c'est quoi? Toi aussi, t'as regardé Backseat, Jean? Ouais, moi aussi. En général, le jeudi, je regarde Backseat, ouais. C'est une prise de parole depuis le bureau ovale, on n'a pas de sujet encore. D'accord. Enfin, je. D'accord. Enfin, vous savez que le président américain, il prend la parole tous les jours dans le bureau ovale. Enfin, il enchaîne les conférences de presse, les MC. Donc, ok, oui, non, peut-être. Hein. Il y a peut-être une prise de parole particulièrement importante pour des sujets qui nous concernent, genre l'Ukraine, etc. Mais. Voilà. J'ai pas revu le replay d'hier, mais j'adore quand vous invitez des journalistes de terrain comme celui en Ukraine. C'est toujours hyper intéressant. Ouais, je suis d'accord avec toi, Joseph, qu'on a interviewé hier en direct de Kiev. Il est absolument passionnant, hein, je suis d'accord. Moi j'ai adoré, hein, c'est vraiment. Je buvais ses paroles, j'apprenais beaucoup de choses, il faisait de la contextualisation et tout. Enfin, c'était vraiment très très chouette. On aurait pu continuer pendant des heures. Et on a tous beaucoup apprécié. J'ai vu que vous aviez beaucoup aimé. Il est possible qu'on le réinvite à l'avenir. Malheureusement, il y a de fortes chances qu'on soit amené à le réinviter pour voilà, parler des évolutions de l'actualité sur le terrain. Mais ouais, c'était très très chouette. C'était fort chouette. Et oui, c'est toujours cool d'avoir des journalistes sur le terrain. Après, c'est toujours le même problème, c'est que si on invite des journalistes sur le terrain, pardon, ça empiète sur le temps qui nous reste sur le plateau pour discuter de l'actualité politique. Mais c'est pas grave, on finit toujours par s'en arranger et on trouve des compromis. Puis ça, voilà. Hier, c'était équilibré, c'était très bien. Heureusement qu'il était là, ça faisait un adulte dans la pièce pour parler d'un sujet sérieux. Excuse-nous, pardon, pardon, si on n'est pas à ta hauteur, pardon. Justement, c'est de l'actu politique et comme vous le laissiez parler, on apprend plein de choses. Oui, non, mais bien sûr, non, mais c'est un intervenant extérieur qui vient nous apporter un éclairage dans l'émission. On est très content. C'est parfaitement utile, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais c'est aussi bien quand on parle sur le plateau avec les chroniqueurs de l'actualité, tu vois. Donc il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Ta lampe rouge s'est cassée la margoulette. Ah ouais! Heureux. L'actu étant assez pesante, on a quand même ressenti une grosse fatigue sur le plateau hier, je trouve. Ouais, je sais, je sais, je sais. Je sais, je sais. Usul, Léa, Emilio étaient fatigués, hein, mais on l'est tous. On l'est tous, l'actualité est lourde en ce moment, elle est pas facile. Tu me diras, ça fait plusieurs mois, voire années qu'elle peut être lourde, mais ça change de l'époque des JO et de Notre-Dame. Vous vous souvenez de Notre-Dame et des JO? En plus, c'est pas vrai parce que Notre-Dame, les JO, bon, d'accord, mais pendant ce temps-là, il y avait dissolution, élections législatives anticipées, nouveau Front populaire, Front républicain, Bardella, tout ça. Donc, ouais, en fait, on avait quand même beaucoup de choses à discuter. Mais non, t'as rien compris, c'était une parenthèse enchantée. Pardon, c'est vrai. Autant pour moi. C'était un grand moment d'unité. Ouais, c'était la belle époque. Mais non, 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 franchement, hier soir, c'était cool. Hier soir, c'était cool, on était contents. Bon, alors évidemment, comment il s'appelle? Edoui est arrivé en retard. C'est pas grave, je l'en veux pas du tout. Hein. C'est des choses qui peuvent arriver. Il est arrivé en retard. Et donc, du coup, on a pu passer un tout petit peu plus de temps que prévu sur les sujets actus. Et on a décidé de faire Edoui après la pause. Normalement, Edoui, il vient avant la pause. Il fait sa chronique avant la pause. Et après la pause, on reprend avec Adèle et l'invité politique. Mais là, on a fait Edoui plus Adèle plus invité politique d'affilée. Et c'est pas grave. Mais c'est juste que. Disons qu'il y a pas tout à fait la même ambiance entre Edoui et Adèle. C'est pas tout à fait. Mais c'est pas grave. Hein. Adèle est extrêmement talentueuse, donc elle sait très très bien réenchanter l'ambiance en très peu de temps. Pour nous faire passer dans une autre séquence de l'émission. Mais c'est vrai que la transition est technique, ouais. Edoui Adèle, ouf. Tu me disais qu'il y avait du changement. Non, mais c'est exceptionnel. Enfin, c'est pas censé se passer comme ça. C'est pas grave. La preuve qu'on est capable de le faire, tu vois, c'est pas grave. Franchement, il n'y a rien de grave. Moi, je trouve que ça marchait bien. Non mais oui, ça marchait. Évidemment que ça marchait bien, parce que c'est au final, il y a rien de problématique. D'ailleurs, je l'aurais même pas relevé, vous me l'auriez même pas fait remarquer. C'est pas grave. Il y a rien de particulier. Mais en fait, moi, je pense que c'est pour Adèle que c'est pas facile. Je pense vraiment que Adèle, dans les coulisses, elle devait écouter Edoui en se disant, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse après ça, putain. Vas-y. Vraiment, l'enchaînement de chroniques là, il est dur. C'est technique. Il s'est passé un truc exceptionnel hier soir, je suis parti à la moitié. Un truc exceptionnel. Backseat est assez exceptionnel d'une manière générale. Hein, elle a super bien géré. Ouais. Ça me rappelle Mathieu Noël sur France Inter qui intervient après les sujets fin de vie ou génocide à Gaza, ouais. Non, non, mais c'est un métier difficile, un chroniqueur. Ouais. J'sais pas. Mais non, franchement, hier, pour le coup, c'était une émission. Enfin, j'étais content, c'est une émission qui a assez bien glissé. En termes d'écriture et tout, on avait été efficace à la réunion de rédac, à la réunion édito. Et du coup, hier, ça passait bien. On a choisi de parler du positionnement de Macron sur l'Ukraine. Enfin, la remise en selle d'Emmanuel Macron dans l'actualité à la faveur du dossier ukrainien, c'est plutôt comme ça qu'il faut le présenter. L'info de la soirée, c'est quand même que Léa ne soutient pas Baxit. Léa, elle regarde pas Baxit. Elle soutient pas l'émission. Elle n'est pas abonnée à la newsletter. Au courant de rien. Elle est magique, Léa. J'ai été voir le morceau avec Bompard sur sa chaîne. Les commentaires sont pas hyper gentils, j'étais choqué. Ah, Manuel Bompard, il a diffusé l'interview sur sa chaîne à lui sans nous demander l'autorisation? Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, sans vergogne, comme d'hab. Le droit d'auteur, c'est un truc de bourgeois. J'ai bien aimé l'interview. Ouais, c'était chouette. Bompard, c'est un très bon invité, hein. Il est très agréable à interviewer. Emmanuel Bompard, il répond à ta question. Tu me diras, non, mais c'est débile ce que je dis, parce que tout le monde répond à ta question, mais il évite pas le sujet qui fâche, il rentre dedans sans problème. Il accepte complètement la contradiction, il se braque pas un quart de seconde. C'est très, très, très agréable de discuter avec Manuel Bompard. Et il te dit clairement ce qu'il pense en plus. Franchement, il tourne pas autour du pot, hein. Des fois, il répond d'à côté. Oui, ça peut arriver. Après, non, c'est toujours une réponse peut être décevante sur le fond. Mais c'est une réponse quand même. Tu peux ne pas être d'accord avec la réponse, c'est pas le sujet, mais voilà. Et Emmanuel Bompard fait partie des invités, effectivement, c'est plutôt agréable. Qui répond clairement à ta question, quoi. Et du coup, c'est super sympa de discuter avec lui. Il était un peu plus tendu sur le sujet de la structure de la France insoumise. Oh, moi, je n'ai pas trouvé tendu. Bah non. Alors pour le coup, ça, c'est une initiative de Léa. Hein. On n'avait pas particulièrement prévu de parler de ça. Nous, on voulait lui poser des questions sur l'avenir post-Jean-Luc Mélenchon. Comment ça se passera, etc. Est-ce que ça va être la guerre des chefs, machin? Et en fait, c'est Léa, je sais plus comment, à un moment, elle a rebondi. Je lui ai posé, moi, une question sur le congrès du PS. Je lui ai dit, le PS va faire un congrès. Il y a des gens au sein du PS qui disent que l'enjeu de ce congrès, c'est Bompard ou Glucksmann. Et moi, ma question, c'était, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le congrès du PS va être un moment un peu important pour la suite? Des hypothétiques alliances ou pas. Vous avez remarqué dans l'interview d'hier que Manuel Bompard n'a pas du tout fermé la porte à des alliances à l'avenir avec le PS. Il a dit que c'était au PS, en fait, de revoir sa ligne, etc. Mais il n'a pas du tout fermé la porte par principe. Il n'a pas dit plus jamais PS, ce genre de conneries. Il n'a pas dit ça. Non, 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 il va pas du tout dans ce sens-là. Nous, on n'a rien fait. Nous, on reste solide sur nos appuis unionistes par principe. C'est aux socialistes de savoir où ils habitent. Soit ils sont avec Bayrou, soit ils sont avec nous. Donc c'était intéressant. Et derrière, et je sais pas pourquoi, j'ai un moment, j'entends dans mon oreille gauche Léa qui dit « Et le prochain congrès de la France Insoumise, c'est quand ?» Oh, putain. D'accord Léa, tu veux aller dans cette direction? Bon bah vas-y. Et du coup, bah, on est parti sur une discussion avec Manuel Bompard sur la démocratie interne à la France Insoumise, c'est comment? Et voilà. Et donc il nous a répondu, et sa réponse satisfera celles et ceux qu'elle satisfera, et décevra les autres, comme d'hab, c'est normal. C'est vraiment Léa qui a embrayé. Bah tiens, puisqu'on parle de congrès, au fait. Bon, ok. Allons-y. Les commentaires hurlent sur Baxit. C'est pour ça que je disais qu'ils n'étaient pas super sympas. Mais c'est normal, ça. C'est tout à fait normal. C'est normal et attendu. Que les insoumis soient pas contents des intervieweurs qui interviewent les insoumis, c'est... Pardon, mais ça fait 10 ans que ça existe, hein. Comment ça le savoir? Tout à fait normal. Attendez, bougez pas. Pardon, c'était pour le boulot. Ça serait bizarre que ça gueule pas. Ah bah oui, ce serait bizarre que ça gueule pas. Si les partisans de la personne que tu interviews te tressent des lauriers pour l'interview que tu viens de faire, c'est que c'était pas une interview. C'était un truc lénifiant, un meeting. Donc non, c'est tout à fait la validation du travail d'un intervieweur, c'est d'être critiqué par les partisans de la personne qui interviewe, et ça c'est oui. Pourquoi t'as jamais eu Attal sur Baxit? Ben parce qu'on l'a jamais invité, déjà à ma connaissance, et ensuite parce qu'il a beaucoup de boulot et qu'il accepte pas beaucoup d'interviews sur Internet, Gabriel Attal. Mais rassure-toi, vu que tu le souhaites ardemment, il viendra un jour, j'espère, sur Baxit, Gabriel Attal. Ça dépend de lui, ça dépend de son avenir politique, ça dépend de ce qu'il va faire. Pour la campagne de 2027, quand vous recevrez tous les candidats? Ah bah j'espère. J'espère qu'en 2027, le candidat Gabriel Attal viendra sur notre plateau, ouais. Est-ce que tu as déjà invité des gens d'extrême droite? Non, jamais. Et ça n'arrivera pas. Quand il ne sera pas réélu aux prochaines élections législatives anticipées. Ah, alors, est-ce qu'on repart dans le scénario d'élections législatives anticipées? Est-ce que c'est ça la strate? Est-ce que vous y croyez, vous, à une future dissolution? Ou est-ce que vous pensez que bon an, mal an, Bayrou va réussir à continuer à tenir jusqu'à la prochaine présidentielle en ne faisant pas grand-chose? Non, je pense pas, non, de moins en moins. Ça dépend du RN. Ouais, ça dépend du RN, je suis d'accord. Ça dépend du RN et du PS. Ça dépend du RN et du PS, ouais. Pas sûr, je sais pas. À voir. Macron n'aura pas lieu, donc pas de dissolution, je pense. Ouais, ça je suis d'accord avec toi. Enfin, le problème, c'est que ton raisonnement, il était valable déjà l'année dernière. Donc on est d'accord, hein, toi et moi, Macron n'aurait pas dû dissoudre, ça c'est sûr. D'une manière générale, et pour lui en particulier. Mais... Ouais, non. Une bataille, oui, une bataille référendaire, peut-être. Y aura-t-il un référendum sur un sujet qui toucherait de près ou de loin la question ukrainienne? Je continue à m'interroger à haute voix sur l'hypothèse d'un référendum sur la question de la défense, sur une réforme des institutions. Je ne sais pas si c'est envisageable une coalition ensemble plus PS plus Vert. On va regarder. Je crois pas. Hein. Je crois pas. Socialiste, écologiste, ensemble. Ouais, non. Non, c'est pas du tout suffisant. Il faudrait rajouter, à supposer que la droite républicaine et Horizon ne participent pas à cet alliage-là. Le MoDem, pas suffisant non plus. Liot, peut pas vraiment compter sur eux. Bon. Non, ça tient pas. Ça tient pas, ça tient pas, ça tient pas. C'est pas suffisant. Alors après, c'est toujours pareil. Non, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire que est-ce qu'on est en train de chercher. Ah, excusez-moi, il y a encore les notes sur le côté. Tac. Est-ce qu'on est en train de chercher. Est-ce qu'on est en train de chercher une majorité de projets ou est-ce qu'on est en train de chercher une majorité d'abstention? C'est-à-dire que la question étant, si les socialistes, les écologistes et ensemble se réunissent, est-ce que les autres les censurent? C'est pas la même chose de ne pas être dans une majorité et de soutenir, et de s'abstenir, et de voter une motion de censure. Moi, je pense que s'il y a un alliage comme ça, tu as la censure de LFI, RN, UDR, peut-être les LR. Ouais, ils pourront pas faire tomber le gouvernement. Non, pas LR. Tu penses que les LR, ils censurent pas l'EPS? Je sais pas. Les communistes. Dans tous les cas, c'est pas suffisant, hein. Non, mais vous avez raison, c'est intéressant. C'est-à-dire que l'idée étant de dire, si François Bayrou est censuré, il n'y a pas forcément une dissolution dans la foulée. Pas forcément. De la même manière de toute façon, il ne pouvait pas y en avoir une, après Barnier. Peut-être que Macron va proposer effectivement une alliance avec les écolos, les socialistes et ensemble, qui composerait ensemble un gouvernement minoritaire. Gouvernement minoritaire qui pourrait potentiellement échapper à la censure. Si Bayrou tombe, je pense qu'il propose un Premier ministre socialiste. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec ton idée. Un Premier ministre socialiste qui composerait un gouvernement dans lequel on retrouverait des écologistes, des socialistes évidemment, mais aussi des macronistes qui feraient une alliance à la Scholz en Allemagne, quoi. Et du coup, ils auraient toute la droite contre eux. Dans cette alliance centre-centre-gauche, il y aurait le RN et les Républicains et potentiellement Horizon aussi qui seraient contre. Un tel gouvernement, ça ferait pas exploser le NFP? Ah bah si, 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 si. Est-ce qu'en tant que chaîne web, Baxit est assujetti à l'égalité du temps de parole pendant les campagnes? Absolument pas. Les règles d'égalité et d'équité des temps de parole pendant les campagnes électorales ne s'appliquent qu'aux télévisions et aux radios, et à personne d'autre. C'est quand le prochain congrès du PS? C'est en juin. Tu peux expliquer pourquoi Horizon serait contre? Il me semblait que ce parti était plutôt proche d'Ensemble. Non, Horizon serait contre parce qu'Horizon, c'est une identité assez assumée à la droite de la Macronie. Horizon a été composé notamment par des personnes qui ont quitté les Républicains pour rejoindre Emmanuel Macron. Mais c'est des gens qui n'iront pas jusqu'à soutenir les socialistes. C'est Édouard Philippe, c'est des gens qui... Non, non, eux, ils seront pas pour cette alliance-là. Je pense, hein, honnêtement, c'est une conjoncture, on peut en discuter, hein, c'est possible que ça peut, enfin, que ce soit plus difficile. Pourtant, Édouard Philippe veut une alliance alliant des sociaux-démocrates à la droite républicaine. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai qu'il a dit ça. Mais bon, s'il y a des écolos, tu vois, je sais pas, peut-être que les écolos vont l'effrayer. Ou... Non, j'en sais rien. En fait, t'as peut-être raison. C'est-à-dire que là, je suis en train de réfléchir en termes de blocs monolithiques, d'alliances, etc. Mais en réalité, la question se posera davantage dans les textes précis qui seront déposés. C'est là que les discussions auront lieu. Est-ce que tu crois à une primaire du centre et de la droite pour 2027? Oui, je crois à une primaire du centre, mais qui va pas jusqu'aux républicains. J'ai du mal à imaginer les républicains accepter de lier leur destin à celui de la Macronie. Alors que ça fait 8 ans qu'ils tergiversent, qu'ils sont contre, qu'ils sont pas dans les majorités, etc. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, parce que là, il y a Retailleau qui est au gouvernement, mais... Avec cette alliance, le PS ne risque-t-il pas de perdre leurs électeurs? Comme toute participation à un exécutif, tu deviens comptable du bilan de l'exécutif auquel tu participes. Quels électeurs? Bah, les électeurs dont LFI a besoin pour avoir des députés. Bonjour, je ne vous connais pas, mais certains vous ont m'ont vivement conseillé vos lives, donc je découvre. Bienvenue. Bienvenue. Deux candidats du centre, je pense, je vois pas Darmanin et Attal ne pas y aller. Hop. Attal, il peut attendre son tour, j'en sais rien. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est la question de savoir s'il y aurait une primaire. En fait, c'est vraiment la question de savoir quelle va être la destinée de la Macronie post-Macron. Macron ne peut pas se représenter à la prochaine présidentielle, donc qui va être le candidat investi par la Macronie? Est-ce que c'est la Macronie qui va décider ou est-ce que c'est Macron qui va décider? Le PS n'a pas besoin d'électeurs insoumis pour être élu depuis 2 élections législatives. Bah si, c'est pour ça que le PS et les insoumis ont fait une alliance. Malin. Donc, est-ce que c'est Macron qui va adouber un dauphin? Est-ce que Macron va se tenir en retrait et laisser un processus de primaire décider? Je sais pas. C'est une vraie question. Typiquement, François Hollande, en 2017, n'a pas désigné de successeur. François Hollande ne s'est pas présenté et il n'a pas dit qui il soutenait. Il a laissé la primaire trancher la question que lui n'a pas su trancher. Et c'est Benoît Hamon qui a été désigné. Au grand dam de François Hollande, d'ailleurs, mais ça, c'est plus son problème. Surtout, il faut trouver un candidat qui ferait retirer la candidature de Philippe qui, lui, ne veut pas de primaire. Ah, ça. Après, ça peut changer. C'est toujours pareil, hein. Je vous rappelle que les Républicains. Je vous rappelle que les Républicains, pendant longtemps, personne ne voulait entendre parler de primaire. Mais en 2022, Christian Jacob a réussi à réunir la famille LR de manière assez spectaculaire, il faut le reconnaître, au sein d'un processus de primaire auquel ont participé des gens qui, y compris pour certains d'entre eux, s'étaient même barrés du parti. Christian Jacob, moi j'ai toujours été assez impressionné par ce qu'il a réussi à faire en assez peu de temps et à ramener dans le giron du parti Les Républicains et de son processus de primaire Valérie Pécresse, qui avait créé le Parti libre à côté des Républicains, et le président des Hauts-de-France. Ah, je suis fatigué. Qui lui-même s'était barré et disait qu'il ne voulait pas entendre parler de primaire. Bertrand, Xavier Bertrand, merci. Et ben, morale de l'histoire, bon an, mal an, un processus de primaire a eu lieu et ils ont tous accepté d'y participer et de se réunir dans le soutien à la candidature de celle qui a gagné, Valérie Pécresse en l'occurrence. Donc quand Édouard Philippe, donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que quand Édouard Philippe dit je veux pas entendre parler de primaire, ok, mais on verra. Ça peut changer. Il y a ce que tu dis maintenant, et puis il y a ce qu'on verra dans 2 ans, comment les circonstances jugent de comment on fait. Salut Mister Fox, des bisous. Et ensuite, les LR ont torpillé la campagne de Pécresse en interne. Je crois pas que les Républicains aient torpillé Valérie Pécresse, hein, qui est des inimitiés à droite, ça j'ai envie de te dire. Ça fait 200 ans que c'est le cas. Qui a eu un travail de sape. Non, je pense que malheureusement, sa campagne était assez mal emmanchée et que l'espace politique des Républicains était inexistant. C'est tout le drame des Républicains depuis que Macron est là, c'est qu'ils n'arrivent pas à exister politiquement. Il n'y a pas d'espace à droite. T'as la Macronie qui est au pouvoir et qui mène une politique qui, à bien des égards, satisfait un électorat de droite classique. Et de l'autre côté, tu as une Marine Le Pen qui se dédiabolise de plus en plus et qui, elle aussi, séduit un électorat de droite classique. Les Républicains se font siphonner à leur droite et à leur gauche. Bon, ça a été vrai pendant 5-6 ans. Là, c'est pas sûr que ça continue comme ça parce que le rassemblement, la Macronie est déclinante, évidemment. Des électeurs de droite déçus par Emmanuel Macron vont peut-être hésiter à revoter macroniste à la prochaine élection législative, présidentielle, pardon, législative aussi. Et de l'autre côté, Marine Le Pen, bon, peut-être que des électeurs de Marine Le Pen vont se dire que Marine Le Pen, ça fait 2 fois qu'elle échoue au second tour à être élue présidente de la République. Finalement, c'est pas le bon poulain. Et il faut peut-être aller chercher quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre pourrait être une figure LR. Donc peut-être que les Républicains vont se ragaillardir grâce au déclin du RN d'un côté et des macronistes de l'autre. Voilà. S'il n'y a pas de dissolution, quand se tiendra la prochaine élection législative? Bah dans 5 ans. S'il n'y a aucune dissolution qui n'intervient, les députés peuvent siéger jusqu'en 2029. Mais tu te doutes bien qu'il finira bien par y avoir une dissolution, soit décidée par Macron, soit décidée par son successeur élu, qui aura tout intérêt à dissoudre l'Assemblée nationale dans la foulée de l'élection présidentielle pour essayer d'avoir une majorité. Ça fait pas vraiment de sens, il ne souhaiterait pas de Le Pen à une figure de LR s'il y a déjà Bardella. Oui, mais si Bardella n'est pas candidat et que c'est Le Pen à nouveau? C'est ça ma question en fait. Si Marine Le Pen est à nouveau candidate, ce qui a priori a toutes les chances d'arriver, en tout cas c'est ce qui est prévu par le parti, il y a peut-être des électeurs du RN qui vont se dire Marine, bon, ça fait plusieurs fois que qu'on vote pour elle, à chaque fois elle perd. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se laisser séduire par une autre personnalité que Marine Le Pen, qui pourrait être LR ou qui pourrait être autre chose. Manuel Bompard a mis sur YouTube son passage dans Backseat. Oui, je sais, j'ai vu. C'est le seul parti politique en France qui fait ça. Ils n'ont absolument pas le droit de le faire, mais ils le font systématiquement. Tu connais le collimateur? Non. Des primaires au RN, c'est comme croire au Père Noël. Ça, j'en sais rien. Le processus de. Le processus de transmission au Rassemblement national, non, je pense pas qu'il se fera par un processus de primaire. Il n'y a jamais eu de primaire. Ce sera très probablement Bardella qui reprendra la boutique après Marine Le Pen, si d'aventure Marine Le Pen lâchait le morceau. Ils n'ont pas demandé. Ah non, non, ils demandent jamais. Les insoumis, ils demandent jamais. Ils se servent. Perso, je suis de gauche et je suis prêt à voter de Villepin s'il se présente. C'est le politique le moins clivant qui serait apte à devenir président. C'est une posture que je peux comprendre, mais c'est une posture qui n'est que personnelle. Là, pour le coup, c'est vraiment la personne de Dominique de Villepin qui te plaît. La question de son programme, etc. Pourquoi pas? Vous savez, une élection présidentielle, c'est tout à la fois un programme politique, une proposition politique et une incarnation. Et tu peux tout à fait voter pour une incarnation parce que l'incarnation te plaît. Tu peux voter pour un programme parce que le programme te plaît. Tu peux voter pour les deux. Et tu peux même te résigner à voter alors que les deux ne te plaisent pas beaucoup. Est-ce qu'un programme peut être incarné par un collectif? Dans le cadre d'une élection présidentielle, non. Non. Moi, je vote jamais car c'est donner du crédit à la politique. Donc tu souhaites que la politique ait le moins de crédit possible. Bah, du coup, ça doit te satisfaire alors. Tant mieux. Toute ressemblance avec une situation existante depuis 20 ans ne serait que fortuite. C'est toute la particularité de l'élection présidentielle sous la Ve République qui crée une incarnation d'une ligne politique, ce qui peut convenir à des mouvements politiques, mais ce qui peut aussi être très difficile à vivre, notamment pour des mouvements pluriels. Comment tu fais vivre la pluralité, par exemple, de la gauche dans une élection présidentielle? C'est très difficile. Le PS, pendant des décennies, a réussi à incarner un grand parti qui réussissait à embrasser des lignes politiques parfois divergentes sur certains points, mais à créer une forme de synthèse et à réussir à incarner tout ça. Mais à partir des années 90, bon, c'est un peu le drame de 2002. Le drame de 2002, c'était que la gauche plurielle ne pouvait pas être incarnée par une seule personne à l'élection présidentielle de 2002. Donc, la gauche plurielle était composée de plusieurs partis politiques qui avaient des désaccords, mais qui gouvernaient ensemble. Et le sauf-conduit pour éviter les tensions exacerbées, c'était de dire, pas de souci, on gouverne ensemble, mais on se présentera séparément à la prochaine présidentielle. C'était en fait une manière qu'avait la gauche de se dire à elle-même, le premier tour de l'élection présidentielle de 2022, ce sera notre primaire à nous. Ça permettra de jauger le poids de chacune des composantes de la gauche dans les négociations pour la suite. Le problème, c'est que tout ça, 2002, pardon, pas 2022, 2002. Le problème, c'est que derrière cette idée-là, il y avait une espèce de foi inébranlable dans l'inéluctabilité de la présence du PS au second tour. De toutes les manières, Jospin sera au second tour contre Chirac. Pourquoi? Parce que le PS a toujours été au second tour depuis les années 60. Aucune raison que ça change. Donc, Jospin sera au second tour. On votera tous Jospin au second tour contre Chirac, ça, il n'y a pas de souci. Mais au premier tour, ah, on se présente chacun de notre côté. On n'hésite pas. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une candidature écologiste, une candidature communiste, deux candidatures trotskistes, qui pour le coup n'avaient pas du tout l'intention de soutenir Jospin, une candidature PRG, Chevènement. Bon, voilà, donc la gauche se présente en 2002 en ordre dispersé au premier tour en se disant, bon, on votera tous Jospin au second, mais au moins notre premier tour nous servira à nous jauger les uns les autres. La suite de l'histoire, vous la connaissez. La gauche n'était même pas présente au second tour. Ils ont tous voté Chirac au second tour. Ouais, c'est ça, ils ont tous voté Chirac au second tour. L'ironie sublime. On était tous partis pour voter Jospin au second tour, et ben finalement, on va se retrouver comme des cons à voter Chirac. Bien fait pour nous. Et vous comprenez que ce traumatisme de 2002 a un impact sur la suite de l'histoire, notamment dans les processus de désignation des candidats à la présidentielle. C'est pas pour rien qu'on voit émerger les premières primaires dans les années 2000, après le traumatisme de 2002. Pour essayer de conjurer le sort et de ne pas se retrouver à nouveau dans la même situation. Pourquoi la rediff de Baxit d'hier n'est plus dispo? Elle est toujours dispo, la rediff de Baxit. Dès la fin de l'émission, les abonnés, vous avez accès à la rediff. Hein. Rendez-vous sur KixisBankBank. Dans votre espace, vous avez accès à la rediff. Hein. Donc, voilà, donc ça vient pas de nulle part. L'émergence des processus de primaire à gauche et dans le reste de la vie politique française, c'est notamment cette difficulté d'incarnation d'une incarnation unique, d'une diversité de courants et de points de vue. Rappelez-vous les négociations difficiles en juillet dernier entre les membres du NFP pour savoir qui présentait comme candidat pour Matignon. Ben, en fait, c'était la même question. Le NFP qui n'avait pas franchement prévu de gagner, hein, ils se sont dit merde, il faut qu'on ait une. Il faut qu'on ait un nom à proposer pour le poste de Premier ministre. Et là, bah, ils se sont arrachés pendant 2 semaines pour essayer de trouver un nom. Ils ne se mettaient pas d'accord. Parce que c'est très, 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 très dur de trouver une incarnation qui satisfasse tout le monde. Est-ce qu'on pourrait institutionnaliser la primaire pour tous? Alors non. Enfin, on pourrait, on fait ce qu'on veut, mais il y a un principe. En droit et en politique et en démocratie, c'est que les mouvements politiques sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et encore heureux, c'est une libre administration. Les partis politiques sont libres de s'organiser comme ils le souhaitent. Si tu veux avoir un parti politique démocratique, machin, tu peux. Si tu veux avoir un parti politique familial où on se transmet de père en fils la tête du parti, tu peux. Si tu veux, enfin, voilà, il s'agit pas de forcer les mouvements à adopter une méthode de démocratie interne. Non, ils font ce qu'ils veulent. Donc, tu fais des primaires. Si tu veux faire des primaires, t'as le droit. Tu veux pas en faire, t'en fais pas, t'es pas obligé. Donc, non, ouais, non, moi je suis plutôt attaché à ce qu'on foute la paix aux mouvements politiques qui s'organisent bien comme ils l'entendent. Est-ce que ça pourrait être institutionnalisé dans un parti? Alors ça, oui. Ah oui. Encore une fois, principe de liberté, libre administration des partis politiques, les partis peuvent décider d'inscrire dans leur statut le fait qu'il y aura toujours des primaires. Ça, c'est tout à fait possible, ça. Oui. Je crois que les Républicains avaient prévu ça dans leur statut pour 2022. C'était inscrit dans leur statut. Il y aura une primaire en 2022, c'est écrit, machin, etc. Parfaitement le droit. Pourtant, tu reproches à LFI de ne pas faire de primaire et donc son organisation. Ah mais moi je reproche rien du tout, LFI font ce qu'ils veulent, hein. C'est des grands. C'est des adultes, hein. S'ils n'ont pas envie de faire de primaire, ils font pas de primaire. Encore une fois, c'est une question de droit. Légalement, je ne suis pas favorable à ce qu'on impose aux autres des choses que moi je souhaite. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ça ne retire rien à ce que j'en pense. De la même manière que eux sont libres de s'organiser comme ils veulent, moi je suis libre d'en penser quelque chose. Et de trouver ça bien ou pas. Et c'est pareil pour vous d'ailleurs. Comment ça marche exactement une primaire? Ils votent en interne pour élire un candidat de tête. Une primaire est une élection interne à un parti politique ou à un groupe de partis politiques qui décide d'organiser un scrutin permettant de désigner la personne qui représentera ces partis politiques-là à l'élection présidentielle. C'est pour ça qu'on appelle ça une primaire. C'est l'élection d'avant la grosse élection. C'est une méthode de départage pour choisir un candidat ou une candidate. Il y a deux modèles de primaires qui existent. Il y a les primaires fermées et les primaires ouvertes. Les primaires fermées sont réservées aux adhérents du parti ou des partis qui participent à la primaire. C'est ce qu'on appelle une primaire fermée. Et les primaires ouvertes sont des primaires qui sont ouvertes aux sympathisants, aux électeurs, aux gens qui ne sont pas membres des partis politiques en question, mais qui souhaitent quand même participer au processus de désignation de la candidature. Voilà. Les deux existent. De toute façon, le PS ne se respecte pas les résultats des primaires. Ils ont tous soutenu Macron en 2017 au lieu de Hamon. Quoi? Bien sûr que non. Comment t'expliques qu'Olivier Faure a été élu premier secrétaire alors? Comment on sait si une personne est vraiment un soutien et non pas un troll venu parasiter la primaire? On peut pas le savoir, mais on s'en branle. Bah si, Valls. Mais Valls, c'est pas le PS. Valls a quitté le PS. Tu vas pas reprocher aux socialistes que Valls les ait quittés. C'est lui qui est parti. Il veut que je le dise. Ces quantités négligeables, de toute façon, les votes trolls. Oui. Oui, non, mais c'est-à-dire que le tu quand tu ouvres une primaire quand tu ouvres largement une primaire en disant aux gens bah, venez voter venez participer à la désignation du ou de la candidate tu supposes de manière assez raisonnable que les gens qui vont faire l'effort de bouger leur cul pour aller participer au scrutin bah, c'est des gens qui ont envie de participer au scrutin. Tu peux pas tu voilà. Tu peux pas contrôler s'il y a des gens qui veulent troller, bah c'est leur problème en fait. Et alors pardon, mais des gens qui sont prêts à claquer une demi-journée pour juste troller, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est pas très grave, c'est un peu négligeable dans les résultats. Est-ce que l'adhésion au parti est forcément payante? Non. Non, le fait de payer une cotisation, c'est assez habituel, c'est assez traditionnel, c'est un acte d'engagement qui permet de signifier son adhésion au parti en versant une somme d'argent, donc ça signifie quelque chose, mais c'est pas du tout obligatoire. Tu peux avoir des partis à adhésion gratuite en quelques clics sur Internet. C'est impossible d'adhérer à LFI, par exemple. La France insoumise fait partie effectivement des mouvements politiques qui ont une adhésion extrêmement light, qui peut se faire en ligne, où il n'y a pas de lien juridique qui peut être prouvé entre une personne et le parti. C'est pas les seuls, hein, les macronistes aussi en 2017 quand ils sont lancés en marche. Je crois que c'était en ligne, hein, que ça se faisait, qu'il n'y avait pas beaucoup de procédures. Est-ce qu'on peut adhérer à plusieurs partis? Alors, d'un point de vue strictement légal, tu fais ce que tu veux. D'un point de vue interne au règlement intérieur des partis politiques, ça dépend. Il y a des partis qui autorisent la double adhésion, mais il y a des partis qui l'interdisent. Quand tu adhères à un parti, tu adhères à une charte et à un règlement intérieur. Et il y a des partis qui considèrent que leurs adhérents ne doivent adhérer à aucun autre parti. Dès lors, s'il s'avère que tu adhères à un autre parti à côté, tu peux te retrouver en situation d'exclusion du premier parti. Et il y a des commissions de discipline qui peuvent décider de t'exclure du parti une fois qu'il a été prouvé que tu avais adhéré à un autre parti. Voilà. Donc ça dépend des partis. C'est vraiment là aussi, les partis sont libres de s'organiser comme ils veulent. Comment ils peuvent savoir? Bah, si tu le dis publiquement, par exemple. La plupart des... J'ai pas de stats, hein, mais pour moi, la plupart des gens qui se font exclure d'un parti politique, c'est des gens qui ont publiquement rejoint un autre parti politique. Genre, t'étais chez LR et tu te retrouves investi au municipal sur une liste FN. Bon, bah LR, ils vont t'exclure d'LR. Hein. Dire, bon, bah c'est bon, on a compris, hein, t'es plus. T'as le droit, hein, mais ciao. Si on te voit en photo sur les réseaux sociaux dans le meeting d'un autre parti, par exemple. Ouais, voilà, c'est ça, c'est. Mais en général, en même temps, je suis en train de te dire ça, mais je me dis qu'en fait, une personne qui fait ça, c'est juste une personne qui change de parti politique. Il n'y a pas besoin d'une commission disciplinaire pour l'exclure. En fait, la personne s'est exclue d'elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, il faut pas penser tout ça dans une espèce de virtualité juridique, de comment ça fonctionne et tout. Il faut juste se dire qu'humainement. Quelqu'un qui quitte un parti politique, eh ben il quitte le parti politique. Il va pas se présenter aux réunions de son ancien parti, l'air de rien. Qu'est-ce que tu fous là, Michel? Qu'est-ce que tu fais là? On a bien compris que tu avais quitté le parti. Enfin, t'as le droit d'ailleurs. Voilà, tu veux plus, tu veux plus, c'est pas grave, mais. Parfois, il y a des sous-parties de partis, genre agir, soyons libres, etc. Ouais, il peut. Alors, ça dépend. Ça dépend vraiment des familles politiques, mais il y a des familles dans lesquelles, effectivement, tu as des espèces de sous-ensembles qui sont parfois pas des partis politiques, mais des associations, par exemple, ou des amicales, ou des groupes informels. Ils sont plus ou moins structurés, des courants, des mouvements, des trucs comme ça. Mais ça, c'est pas, y a pas vraiment de structuration. C'est au sein du parti, effectivement, c'est au sein de la famille politique qu'il y a le sous-parti machin, qui n'ont pas toujours des noms d'ailleurs. Hein. Mais alors là, pour le coup, ça dépend vraiment de l'organisation de chacun des partis. Au Parti socialiste, c'est ce qu'on appelle les motions. Au sein d'une motion, t'as quasiment une sous-famille, quoi. Une chapelle. Au sein des macronistes, effectivement, il y en a pas mal. Hein. Il y a les territoires de progrès, Agir, il y a Horizon, qui a carrément son propre groupe de députés. Merci Billy Bombard pour ton abonnement. Merci Kia, Enix, Rêve Paro, Le Petit Martien, Pierre, Scarb, merci à vous. Merci MX. Pour le coup, Horizon est un vrai parti, pas un courant de renaissance. Non, tu as raison, effectivement, Horizon a une vraie structuration en parti politique autonome. Qui est lié par un accord à Renaissance, où ils ont créé une structure qui s'appelle Ensemble, qui est censée réunir tous ces groupes-là. Donc voilà. Apparemment, c'est très dur, voire impossible, de défendre des idées au PS à cause des guerres de chapelle des motions, justement. Ah ben non, c'est l'inverse. C'est justement parce qu'il y a des guerres éternelles de chapelle au sein du PS que c'est extrêmement facile de défendre des idées au PS. Le PS, c'est un sport national au PS de critiquer la direction du parti. C'est un des trucs que tu apprends à faire quand tu rentres. Hein. C'est à gueuler sur le fait que non, mais attends, c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est que cette motion, qu'est-ce que c'est que cette proposition de loi, qu'est-ce que c'est que cet angle, qu'est-ce que c'est que machin. Non, mais voilà, c'est. Non, franchement, Les socialistes, s'il y a bien un truc qu'il faut leur connaître, c'est leur totale liberté quand il s'agit de défendre leurs idées en interne au parti. Hein. Oula! Même un chouïa casse-couille dans le genre. Alors qu'à LFI, bah LFI ça fonctionne pas pareil. Comme l'a dit Manuel Bompard hier soir, LFI ça fonctionne pas pareil. LFI, c'est au sein d'LFI, c'est très très facile de défendre les idées d'LFI. Et si tu y adhères, alors là, tout roule, hein. C'est pire chez les Verts. Ouais, chez les Verts aussi. Non, non, chez les Verts, t'as raison. Les Verts, ils ont une tradition politique aussi. Il y a une culture militante aussi chez les Verts qui est extrêmement. C'est quoi le souci avec les Verts? Ah non, non, il n'y a pas de souci. Non, non, il n'y a pas de souci. Les Verts sont une famille politique qui a une pratique démocratique interne très intense qu'on peut constater par des bisbilles entre ses militants, ses responsables, etc. C'est tout. C'est un peu comme le Parti socialiste. Hein. C'est pas, enfin, c'est un souci, ce qu'on appelle une démocratie. Hein. Ça s'engueule, ça se dispute, ça se pinaille, etc. Et voilà. Et ça se met d'accord ou pas. Les écolos vont eux aussi organiser un congrès cette année, et dans la perspective du congrès, bon, bah ça gueule, et c'est normal. C'est complètement normal. Là, d'ici au mois de juin prochain, vous allez entendre des gens qui vont critiquer Marine Tondelier, sa direction du parti, etc., machin. C'est normal, ils sont en compétition interne pour le vote qui va avoir lieu à l'occasion du congrès. Pareil au PS. Vous allez entendre Carole Delga, Maya Rossignol, on va les inviter sur Backseat d'ailleurs, qui viennent nous raconter un petit peu tout ça. Vous allez les entendre critiquer Olivier Faure, sa ligne, sa position, son machin, etc. Voilà. Au RN, ils font ça aussi. Un peu moins. Pour le coup, le RN, c'est terrible ce que je vais dire, mais pour le coup, le RN, ils ont un fonctionnement que je trouve qui se rapproche un peu plus du Parti communiste, dans le sens où la direction du parti fait un travail de synthèse avant le congrès, de manière à simplifier le choix des militants. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des partis démocratiques, ça veut dire que le fonctionnement qu'ils ont, c'est un fonctionnement collégial où la direction du parti crée la synthèse. Alors, il y a une verticalité très importante au Rassemblement national, où la présidente, en l'occurrence Marine Le Pen, a une autorité très forte sur le parti. Donc, il ne s'agit pas tant de remettre en question la ligne de la présidente. On peut en discuter les détails, mais il n'y a pas de remise en cause de l'autorité, il n'y a pas de réélection systématique de la présidente, etc. Une fois qu'elle est élue, elle est élue, et on avance tout droit, quoi. Au Parti communiste aussi, le fonctionnement du Parti communiste, il y a aussi des motions, il y a aussi des tendances au sein du Parti communiste, mais à chacun des congrès du Parti communiste, la direction sortante du parti, avant même le congrès, intègre les critiques dans son propre texte d'orientation pour en proposer une synthèse qui montent, enfin voilà, qui disent aux militants, on a bien compris la critique, on propose de l'améliorer, etc. Et donc le texte de la direction est toujours plébiscité par les adhérents du parti. Parce que c'est un texte de synthèse, d'union, etc. Il y a une fois où ça n'a pas eu lieu, ça, où pour la première fois de l'histoire du Parti communiste français, la direction sortante a été battue dans les urnes du parti. C'est au moment où Fabien Roussel a gagné, contre Pierre Laurent. La direction sortante du parti, c'était celle de Pierre Laurent. Pierre Laurent était favorable à l'union avec les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Ça s'était pas très bien passé au sein du Front de gauche. Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent s'étaient engueulés. Voilà. Et à l'issue du congrès, les communistes n'ont pas très très bien vécu l'alliance avec les insoumis. Et à l'issue du congrès, le vote a déclaré vainqueur une autre motion, un autre texte d'orientation que celui de la direction. Pardon. Et ça, c'était du jamais vu au PC, hein. On n'a jamais vu ça au PC. Et voilà. Et donc le texte d'orientation qui a gagné, eh ben, c'était celui qui était porté par un certain Fabien Roussel, avec ses camarades, qui disait, il y en a marre, maintenant le Parti communiste doit s'autonomiser et défendre une position et une candidature autonome à l'élection présidentielle. Et voilà comment Fabien Roussel s'est hissé à la tête du Parti communiste sur une ligne d'autonomie. Donc on arrête de se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon dans les élections présidentielles, et maintenant on présente notre candidature à nous. Voilà. Et peut-être que c'est ce qui attend le Parti socialiste, tiens, qui va peut-être faire pareil. Olivier Faure, qui a fait alliance à deux reprises avec Jean-Luc Mélenchon à des élections législatives, va peut-être perdre le parti et à sa place sera élu quelqu'un qui portera une ligne d'autonomisation du Parti socialiste, qui doit se présenter de manière seule et autonome à toutes les élections. On verra. Ou alors les militants préféreront valider le travail fait par Olivier Faure depuis plusieurs années pour redresser le Parti socialiste, le réancrer à gauche. Ta vision est déprimante, ciao. Bah ciao, hein. So long. N'importe qui du parti peut se présenter en tant que chef du parti. Ça dépend des modalités d'élection du chef du parti, ça dépend des partis, mais normalement, il faut être membre du Conseil national ou membre du Bureau national. Ben voilà. En général, il faut des parrainages. Ouais, ça, oui. Ça dépend des structurations des partis et des règlements intérieurs et des statuts des partis, mais il peut y avoir des systèmes de parrainage et tout. Faudrait trouver un moyen d'empêcher l'aile droite du PS d'avoir 500 parrainages. D'accord. Donc toi, tu fais carrément dans le trafic d'élections, dans le... D'accord. Non, non, mais très bien, très bien, très bien. Ça vaut le coup de s'opposer à Trump, hein. J'aime la démocratie. Savez ce qu'on devrait faire? On devrait péter les genoux à toutes les personnes qui pensent pas comme nous. Comme ça, elles pourraient pas se déplacer pour aller au bureau de vote. Y a les procurations. Ah merde. Oh. Les gens à qui on pète les genoux, ils sont anti-démocratie de toute façon. Voilà, c'est ça. Moi, je propose qu'on empêche les anti-démocraties de participer au vote de manière à bien garantir la démocratie. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il n'y a rien de plus démocrate que d'empêcher des gens de voter. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Mais les antidémocrates, c'est les vrais démocrates pourtant. Ah oui, merde, c'est vrai, t'as raison. Putain, à chaque fois, je me trompe. J'ai du mal à m'y faire, mais ouais, t'as raison. J'ai l'impression que l'écart idéologique entre l'aile droite et gauche du PS va mener à de nombreux départs pour 2027. Je vois pas la droite faire campagne avec le NFP et je vois pas les unionistes accepter de perdre tout seul. Tu sais, les écarts idéologiques au sein du PS, ça fait un siècle et demi, hein. Je vous rappelle que le Parti socialiste est un parti dans lequel il y a eu Jean-Luc Mélenchon et Dominique Strauss-Kahn ou Manuel Valls pendant des décennies. Parti socialiste, ça peut être très très grand en termes d'écart, en termes de cohérence, etc. machin. Au PS, on chante l'international et on porte aussi le costume. Pas dans les mêmes motions, mais quand même. J'ai connu des universités d'été du PS où t'avais toute la moitié de la salle qui chantait l'international. Pas l'autre. Bisous, Mr. Fox. Macron était ministre sous gouvernement PS. Comme Jean-Luc Mélenchon. Tiens, c'est vrai, ça fait un point commun entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. J'avais zappé. Ouais, ils ont tous les deux été ministres socialistes. C'est parfaitement vrai, t'as raison. Ouais. Comme Jospin, ouais, comme Jospin. Macron n'a jamais été membre du PS, il me semble. Oui, c'est possible. Alors, je sais pas du tout s'il a déjà payé une fois une cotisation au parti. C'est justement ce grand écart idéologique du PS qui le mène à sa perte, non? Ou qui le mène à l'Élysée? C'est une question, c'est une manière de voir les choses, mais bon. Jusqu'à preuve du contraire, le PS est le seul parti politique de gauche à avoir déjà remporté des élections présidentielles dans ce pays. Alors, est-ce grâce ou est-ce malgré? Toute la discussion est là, mais. C'est quoi les différentes motions au PS? Alors, je ne sais pas pour le prochain congrès quelles directions vont être prises et tout. Ce que l'on sait aujourd'hui des tendances au sein du Parti socialiste, c'est assez simple. Il y a grosso merdo deux tendances qui sont quasiment à part égale dans les instances dirigeantes du parti. On est vraiment sur un 50-50. Tu as toute la moitié du PS qui soutient Olivier Faure, notamment dans sa stratégie unioniste à gauche, qui consiste à faire un accord électoral avec les communistes, les écologistes et les insoumis aux élections législatives. Et tu as toute l'autre moitié du Parti socialiste qui est assez critique de cette stratégie d'alliance et qui préférerait que le Parti socialiste se détache plus clairement de Jean-Luc Mélenchon et des insoumis. Voilà. Donc on est sur un 50-50. Sur des questions de stratégie, pour ou contre l'alliance avec les insoumis. Crois que le clivage, c'est vraiment LFI et pas les autres partis. Oui, c'est vraiment LFI. Non, non, pour le coup, oui, t'as raison. Ça se focalise sur la question de la France insoumise. Mais les insoumis veulent plus du PS. Si. Ah bah regarde l'interview qu'on a fait hier soir du coordinateur national de la France insoumise, qui dit pas qu'il veut plus du PS. Le truc, c'est que les socialistes, les insoumis et les autres ont bien conscience qu'ils ont besoin les uns des autres s'ils veulent réussir à peser dans des élections législatives. Donc, c'est pour ça que enfin, moi, les anti-Olivier Faure qui disent, ouais, il y en a marre, Olivier Faure est à la remorque de Jean-Luc Mélenchon. Remorque de quoi? Mais de quoi tu parles? Enfin, juste. C'est chiant, quoi. Et surtout l'idée de dire, on en revient à la stratégie Roussel dont je vous parlais tout à l'heure, autonomie, autonomie, on se présente tout seul comme des grands, fierté socialiste, etc. Non mais les gars, enfin, si vous faites ça, vous allez juste avoir moitié moins de députés, et toute la gauche va avoir moitié moins de députés, et Jordan Bardella va être Premier ministre. Enfin, genre vraiment, c'est ça votre strat? Pardon. Ça, c'est les discussions à gauche, ça, tu vois. Ça, on aime bien. C'est les militants qui sont assez polarisés pour penser qu'ils n'ont pas besoin les uns des autres. Oui, mais ça, alors pour le coup, ça aussi, c'est un grand classique. Hein. C'est un grand classique, mais c'est d'ailleurs c'est aussi une stratégie, ce qu'on appelle une stratégie de congrès. Stratégie de congrès, si tu veux gagner ton congrès, si tu veux gagner ton congrès, t'as pas intérêt à dire à tes adhérents, on va faire des sacrifices. Non, t'as intérêt à leur dire, vous inquiétez pas, je serai votre représentant, le parti va être fort, il va se présenter tout seul comme un grand, et on va faire des super scores, tout ça, machin et tout. C'est pas très sexy auprès des militants de leur dire on va faire des alliances avec les autres partis. Ça plaît pas beaucoup. Donc voilà. Mais il y a des militants PS encore? Et pourquoi tu voudrais qu'il n'y en ait plus? C'est quoi cette question? S'il s'appelait à Tondelier pour sa prochaine punchline. Ouais. Avec des gens comme Guedj qui préfèrent être dans l'opposition sous Bardella que dans la majorité sous Mélenchon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ouais, non, mais t'as raison. Et puis vice-versa, tu vois, c'est exactement comme les. Il y a aussi des insoumis qui ont exactement la même rengaine et rhétorique qui consiste à dire plus jamais PS. On fera plus jamais d'alliance avec le PS, etc. Bon, bah, très bien, alors on aura Bardella, super. Puis on sera tous dans l'opposition à Bardella, mais sans les PS socialistes. Bon, bah super. C'est bon. Ok. Et vice-versa, ouais. Exactement. Vraiment, la stratégie isolationniste et séparatiste, etc., surtout à gauche, hein. Mais de toute façon, c'est l'histoire de la gauche, c'est des engueulades qui finissent par se réunir au bout d'un moment, quoi. Qui vote au prochain congrès du PS, tous les militants votent sur place, à distance, des délégués. Je ne sais pas si le Parti socialiste a mis en place le vote par Internet pour ses adhérents et ses militants, mais ceux qui votent, ceux qui sont appelés à voter, sont tous les adhérents du Parti socialiste. Ouais. Rappelons que le PCF a perdu de manière catastrophique aux européennes avec 2%. Ouais, rappelons que les européennes n'ont jamais été glorieuses pour le Parti communiste, hein, donc c'est pas. Mais oui. Il y a des gens qui parlent de présenter deux candidats NFP au premier tour de la présidentielle, LFI plus Alliance PS-PCE-ELV, pour s'allier au second tour. Ouais, je sais. En fait, je sais pas si c'est une proposition ou si c'est juste comment dire, une préfiguration de ce qui a de fortes chances d'arriver. C'est-à-dire que la France insoumise ne soutiendra personne d'autre que Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Donc, ils vont présenter Jean-Luc Mélenchon, ils vont voter pour lui. Bon, ça, d'accord, ça c'est fait. Les autres partis, écolo-communistes et socialistes, vont peut-être organiser une primaire ensemble, ou autre processus de désignation qui ne serait pas une primaire, je ne sais pas quoi, pour présenter quelqu'un d'autre. On aurait donc potentiellement deux candidats de gauche, à minima, sans compter sur l'extrême gauche, etc., mais juste sur cette partie-là, avec Jean-Luc Mélenchon plus quelqu'un d'autre. C'est pas très souhaitable au global, il faudrait un seul candidat. Moi je suis assez d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, hein, qui rappelle systématiquement que à chaque fois que la gauche a remporté une élection présidentielle, elle n'avait pas de candidat unique au premier tour. Il, hein, n'y a pas besoin d'un candidat unique pour arriver au second tour. Il y a besoin d'un fort élan populaire en soutien à une candidature. Donc, on n'était pas dans un état aussi morcelé du paysage politique avec trois blocs. Les trois blocs sont surtout issus des élections législatives. Pour la présidentielle, c'est une bonne incarnation plus un fort mouvement populaire fait que tu te qualifies au second tour. C'était quand le RN faisait 10%. Ouais, je suis bien d'accord. C'est-à-dire que moi, l'idée qu'il existe un candidat unique NFP à la prochaine élection présidentielle me paraît tellement improbable que je laisse un peu tomber l'idée, quoi. Il y a des divergences qui sont trop fortes. Il y a le Parti communiste qui veut absolument y aller tout seul de toutes les manières, semble-t-il, sauf si Fabien Roussel change de point de vue. Et puis les insoumis, les socialistes réussiront jamais à se mettre d'accord sur un processus de départage qui satisfasse tout le monde. Les insoumis ne veulent pas entendre parler d'une primaire. Bon, bah. Tant que chacun est dans le tous ensemble derrière moi, c'est peu probable. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je constate comme vous que ça paraît bloqué, que ce qui a l'air de se dessiner, c'est une candidature autonome de la France insoumise, c'est une candidature socialiste slash social-démocrate qui pourrait se faire avec ou sans les écolos et les communistes, et que ensuite advienne que pourra au premier tour, quoi. Pour la gauche, à mon avis, ce qui est en train de se dessiner, c'est ça. Ça peut changer, hein. Hollande, il est de quel bord du PS, uni ou anti-LFI? Hollande, il est anti-LFI. Hollande, il est du côté de Nicolas Mayer-Rossignol, de Carole Delga et d'autres responsables assez critiques. À avant chaque parti faisait une candidature autonome et ça n'a pas empêché le PS d'accéder au second tour et réussir une présidentielle. C'est ce que je disais tout à l'heure, je suis d'accord avec toi. C'est un argument qu'on entend souvent. Et enfin, bon, il est toujours prononcé par ceux que ça arrange, mais c'est normal, comme d'habitude. C'est le fait de dire que une gauche divisée au premier tour à la présidentielle ne veut pas dire que la présidentielle va être perdue par la gauche. On a des contre-exemples. On a aussi un autre exemple dont je parlais tout à l'heure, qui est Jospin en 2002, où là c'est l'exact inverse. Une gauche divisée au premier tour, c'est-à-dire qu'on n'est même pas au second tour. Bah bravo, super. Les deux existent. Les partis de gauche ont-ils donné leur avis sur les questions sur l'armée après les propos de Macron? Ouais, on voit se dessiner une division à gauche entre les socialistes et les écolos d'un côté et les communistes et les insoumis de l'autre, qui sont pas d'accord parce que les socialistes et les écolos veulent absolument soutenir l'Ukraine, y compris avec des armes, etc., alors que les communistes et les insoumis sont plutôt hostiles. C'est résumé grossièrement, mais t'as un peu l'idée. On a bien vu en tout cas que la séparation était assez nette. Alors que sur la question du nucléaire, là, c'est plutôt les insoumis et les écolos qui sont anti-nucléaires et les socialistes et les communistes qui sont pro-nucléaires. Il n'y a pas les mêmes clivages partout, tout le temps. Ça dépend des sujets. J'attends le clivage PS-LFI contre PCS-EELV. Je réfléchis. Non, non, il y en a peut-être un. Il y en a peut-être un. Sur la décentralisation, sur le girondisme. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, il a gardé une tradition purement socialiste? Faut que j'en trouve un. Faut que j'y réfléchisse. La question finalement est-elle pas, est-ce qu'un parti de gauche est capable à lui seul de dépasser les restes du centre après Macron? LR semble trop hors jeu, quoique Horizon avec Philippe semble regagner du poil de la bête. En fait, t'as raison, c'est aussi une question à gauche sur que vont devenir les électeurs macronistes. Après deux quinquennats d'Emmanuel Macron, le macronisme est en berne. On se doute bien que les électeurs sont beaucoup moins enjoués qu'ils ont pu l'être en 2017 et 2022 pour soutenir Emmanuel Macron. Il y a peut-être une bonne partie d'électeurs qui ont voté Macron ces 10 dernières années, qui viennent historiquement de la gauche, qui pourraient être amenés à y revenir. Peut-être que d'anciens électeurs de gauche pourraient revenir à gauche si une candidature les séduit. Voilà. Les électeurs macronistes seront plus très nombreux d'ici 2027. Mais, non, mais si, justement. C'est-à-dire que les électeurs qui ont voté macroniste ont, je suis d'accord avec toi, peu de chances de revoter macroniste. Enfin, peu de chances. Ils verront, ils auront le choix comme tout le monde. Moi, je comprends pas comment tu votes à gauche, puis pour Macron, c'est ridicule. Et je pense que les gens qui font ça n'essayent pas de briller à tes yeux. Tu vois, eux, ils vont très bien, hein. Moi, je vois plus qu'à droite, qu'à gauche, hein, les macronistes. On verra. On verra. Les électeurs qui ont voté Macron parce qu'ils appréciaient la modernité, parce qu'ils appréciaient un certain progressisme, etc., peut-être sont déçus par le virage à droite qu'a pris Emmanuel Macron au fur et à mesure. Merci Defend. Des bisous. On est en train de réfléchir à la prochaine présidentielle. Si vous avez des idées, hein. Et donc, oui, peut-être que des électeurs déçus par la droitisation des deux quinquennats successifs d'Emmanuel Macron vont préférer voter à gauche. Mais ça dépend sur quelle candidature de gauche, quoi. Continuer d'insulter les macronistes et la gauche pourra faire 20% aux prochaines élections. Ah bah ça, c'est une question de stratégie militante. Est-ce que insulter des électeurs potentiels est utile pour les faire voter pour moi? La réponse est non. Est-ce qu'il faut donc continuer à cracher à la gueule des gens en espérant qu'ils changent d'avis et se rallient à notre cause? Non, il y a peut-être d'autres méthodes. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut arrêter de critiquer Macron, parce que c'est pas la même chose d'engueuler les électeurs que d'engueuler les responsables politiques. Alors ça, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est cohérent. Est-ce qu'on connaît le soutien à date de Mélenchon par les représentants LFI? 100%, à ma connaissance. Les personnes qui critiquent Mélenchon étant exclues du parti ne sont plus des représentants LFI, donc ne comptent plus. Donc du coup, ouais, non, non, on est sur un 100%. Le prochain président sera sûrement de droite, car la gauche n'aura rien appris. LFI et le PS feront bande à part, et les électeurs de Macron voteront pour un mec de droite. LFI et le PS feront bande à part, ça dépend. Encore une fois, c'est toujours pareil. LFI et le PS font bande à part quand ils ont envie de faire bande à part, et puis quand ils ont besoin de se réunir, ils finissent par se réunir. Ils l'ont déjà fait à deux reprises. Les électeurs de Macron vont sûrement voter PS ou LR, mais pas RN. Ouais, je suis d'accord avec toi. Les électeurs de Macron qui ne vont pas voter macroniste, pour qui vont-ils voter? Pour moi, je suis d'accord avec toi, ce sera soit les Républicains, soit PS, écolo éventuellement, c'est possible. Mais ils vont pas aller voter ni pour le RN, ni pour le Parti communiste, ni pour LFI. Non, je suis d'accord. La possibilité d'une candidature qui rassemble les macronistes, LR et le PS est-elle plausible? Non. Non. Je suis désolé. Je veux bien faire preuve d'énormément d'imagination, mais un candidat commun à l'élection présidentielle qui rassemblerait les républicains, les socialistes et les macronistes, ça n'a pas de sens. Absolument aucun sens. Même aux législatives, ça n'a aucun sens. Alors, ah non. Au second tour sur un front républicain éventuellement, mais au premier tour, présenter des candidats communs, non. Moi, je trouve que le PS a plus en commun avec LR qu'avec LFI. Ah ouais, carrément. D'accord. Ce serait le rêve d'une 6e République de coalition. Ah, bah ça. J'espère que vous aimez l'Assemblée nationale telle qu'elle est aujourd'hui, parce que si on se dirige vers une République parlementaire avec des coalitions et une proportionnelle, on va en avoir beaucoup. Merci Ilna, bisous à toi. Pour cela, il suffit de regarder ce qui se passe en Allemagne. Je crois qu'ils n'ont toujours pas de gouvernement officiel. Non, et c'est normal. C'est normal, c'est habituel. En Allemagne, une fois que les élections ont lieu, s'ouvre une phase de négociation qui dure très longtemps, plusieurs mois. Ça peut aller jusqu'à plusieurs mois, entre les différents partis politiques appelés à gouverner ensemble, sur le programme qu'ils vont mener ensemble. Voilà. Donc là, on est dans la phase de négo. Et on verra ce que ça donne. Qui dirige pendant ce temps l'ancien gouvernement? Oui, mais ça c'est la continuité classique de l'État. On expédie les affaires courantes le temps que les négociations aboutissent. C'est si dur de se projeter avec le contexte international actuel, ça rajoute trop de variables. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, depuis tout à l'heure, on discute alliance à gauche, macroniste, comportement électoral, etc. Il y a aussi une question qui se pose et qu'il faut jamais oublier, c'est quel est le contexte dans lequel se déroule l'élection? À quel moment de l'histoire on est et comment les gens perçoivent l'avenir, etc. Ça change toujours la donne. Est-ce que le contexte ukrainien va changer la donne au point de transformer les choses et de déplacer les enjeux de l'élection présidentielle? Est-ce que l'élection présidentielle ressemblera à un espèce de plébiscite pour ou contre le soutien à l'Ukraine? Peut-être que ça va devenir ça. Ou est-ce qu'à l'inverse, ce sera le pouvoir d'achat qui sera la question numéro un, centrale, sur laquelle vont s'écharper les camps politiques? Voilà, c'est tout ça, tout ça fait bouger les curseurs aussi. Et comme je vous l'expliquais, un électeur a toujours des raisons de voter pour le candidat pour lequel il va voter. Et ces raisons peuvent être unanimes en faveur de ce candidat, et puis parfois ça peut être des compromis. On peut voter pour un candidat parce qu'on soutient absolument ce candidat. Il y a même des gens qui savent 2 ou 3 ans avant l'élection pour qui ils vont voter, c'est sûr. Bon, bah très bien, ok, voilà. Et puis on peut être indécis, on peut ne pas trop savoir pour qui on va voter, on attend de voir un petit peu comment se passe la campagne, et puis on peut être séduit par une dynamique, par une candidature, par une personnalité, par un programme, etc. Et puis parfois on peut être très indécis et ne décider qu'à la dernière minute, déjà si on va voter ou pas, toujours s'abstenir, et puis on peut décider de voter pour tel candidat pour X, Y ou Z raisons. Mais il y a aussi des raisons bloquantes, c'est-à-dire qu'il y a aussi des éléments qui sont des no-go absolus, des casus belli. Ça, pour moi, c'est dead, c'est éliminatoire. Je ne voterai jamais pour ce candidat-là. Alors, ça peut être la personnalité du candidat. Ça existe. Il y a des gens clivants. Il y a des gens, je suis désolé, mais moi, c'est dead. C'est pas le fond de son propos, etc. Mais c'est la personne. Je peux pas, je supporte pas, etc. Il a des casseroles, il a machin, un passé, un bilan, etc., etc. Il y a des propositions programmatiques qui sont éliminatoires. Il y a des gens qui disent, je ne peux pas voter pour cette personne parce que dans son programme, il y a ça. Et ça, pour moi, c'est hors de question. Jamais, etc. Bon. Donc, tous ces éléments-là, faut les mettre dans un grand mixeur et faut mettre le contexte de l'actualité au milieu pour voir comment vont se comporter les électeurs. À l'inverse, il y a des gens qui vont voter pour n'importe quel candidat à condition qu'ils défendent ça. Et un truc très précis. Voilà. La sortie de l'UE était vraiment bloquante en 2017. Dans quel programme? Celui du RN? Mais oui, donc voilà, donc une élection présidentielle, c'est toujours un mélange de tout ça. C'est toujours un mélange de personnalités, de programmes, de dynamiques, d'ambiance globale dans le pays, d'angoisse vis-à-vis de l'avenir, ou d'espérance aussi d'ailleurs, de manière de voir les choses qui s'agrègent et qui peuvent parfois créer des alignements de planètes qui rendent possible des trucs. Des candidatures, des victoires improbables à l'arraché, des surprises, des choses comme ça. Ou à l'inverse, des conjonctions de mauvais temps qui plombent une campagne, qui devient inaudible, le candidat vraiment passe complètement à côté du truc, ça marche pas, ça prend pas, ça imprime pas, ça adhère pas, etc. Bon, ça arrive, il y a des candidatures ratées. Pourquoi vote-t-on pour des gens et pas d'abord pour des idées? Est-ce que c'est une mauvaise idée? On ne peut pas dissocier un programme politique des personnes qui vont l'appliquer. On n'élit pas des idées, ça n'existe pas. Les idées ne gouvernent pas le monde. C'est faux. C'est une jolie fable qu'on se raconte à nous-mêmes pour se dire qu'il y a une noblesse des idées et il y a une vulgarité de la personne. Que la personne est corrompue et corruptrice, oui, corrompue, corruptible, alors que l'idée, elle, dans le monde des idées, elle est toujours belle, vierge, etc. Enfin, elle n'existe que dans un monde éthérique, etc. C'est faux. Ça ne marche pas comme ça ne peut pas marcher comme ça. Un programme est appliqué par des gens. On élit des gens qui portent un programme. Et on ne peut pas demander à des gens d'appliquer un programme avec lequel ils sont en désaccord. Il y a un moment où, d'un moment, ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Le programme n'est jamais respecté. Le programme, un programme, c'est un, comment dire? C'est un engagement de cap et de direction qui est pris, mais un programme ne peut jamais s'appliquer de manière magique à des situations qui, de toutes les manières, sont changeantes. Vous pouvez proposer ce que vous voulez aux électeurs, mais vraiment ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas vous engager sur un état des circonstances dans lesquelles vous allez vous retrouver. Vous pouvez promettre que vous allez faire le maximum, que vous allez essayer, que vous allez aller dans la direction de, et que vous allez agir résolument en faveur de, etc., etc., etc. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens précisément quelles sont les conditions que vous allez rencontrer, parce qu'en fait, ça, vous ne les connaissez pas et personne ne peut les connaître. C'est un peu comme la météo. On peut se faire une bonne idée, une fourchette, etc. Mais le Covid, c'est le Covid. Désolé, ça vous tombe sur le coin de la gueule, vous n'avez pas prévu. Bon, bah, maintenant, on fait ce qu'on peut avec. La guerre en Ukraine, c'est pareil. Les attentats de 2015, c'est pareil. La crise de 2008, c'est pareil. C'est des choses. La chute du mur de Berlin, le 11 septembre. Bon, ben voilà, ce sont des événements d'actualité qui bouleversent tous les programmes que vous aviez, toutes les idées que vous vous en faisiez. Et donc, vous pouvez essayer d'en faire le maximum dans la direction de. Mais parfois, vous êtes obligé de dire et de dire à vos électeurs, on va pas pouvoir faire ça. Oui, on avait prévu de le faire. Ah ouais, on l'avait prévu. Est-ce que c'est souhaitable? Ah oui, toujours. Mais est-ce que c'est réalisable? Non. Non, il y a des choix, il y a des arbitrages. Grand principe, vous le savez, en politique, de faire des arbitrages, prendre des décisions. Et voilà. Les politiciens ne connaissent pas le futur. Eh non, personne. Genre Macron qui avait promis de pas toucher aux retraites, sauf que le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Ouais, conjoncture économique qui se passe mal. Si on avait de la croissance économique, on pourrait appliquer à peu près n'importe quel programme politique, hein. Assez facilement même. Quand on a une croissance en berne un peu plus au-dessus de 0%, bah tout est cher. Tout est compliqué. Taux de chômage qui grimpe, taux d'emploi des jeunes qui baisse. Non, ouais, c'est. Le programme, c'est l'objectif. La réalité dira ce qu'on peut faire en vrai. Exactement. Donc, ne. J'aime pas beaucoup quand on parle de promesses électorales. S'il y avait un espèce de je jure avec mon sang que je ferais, machin et tout. Ne votez pas pour un candidat en vous disant qu'il fera son programme. Dites-vous qu'il va essayer de faire son programme. Qu'il va faire le maximum. Qu'il va tenter. Qu'il va aller dans la direction de. Si la direction vous va, c'est déjà pas mal. Il va peut-être pas réussir à tout faire. Il va peut-être être obligé de prendre des décisions qu'il n'a pas envie de prendre. Etc. Est-ce que le NFP existe toujours officiellement? Le NFP n'a jamais existé officiellement. Il n'y a pas d'officialité. Le NFP est un accord de coalition électorale entre quatre partis politiques qui se sont mis d'accord pour présenter des candidats dans les circonscriptions. Point barre. La seule autre existence qu'il y a, c'est un intergroupe à l'Assemblée nationale qui se réunit de façon pas. Donc, de cette manière. Voilà. Le NFP n'est pas un parti politique, le NFP n'est pas une structure, le NFP n'est pas une organisation, le NFP n'a pas de statut, le NFP n'a pas de règlement intérieur, le NFP n'a pas de dirigeant, le NFP n'a pas de. Voilà. C'est un accord électoral, le NFP. Et on verra aux prochaines élections s'il sera reconduit ou pas. On verra. J'en sais rien. Une belle fumisterie qui permet au PS de revenir, j'ai trop la haine. Ah, t'as la haine contre le NFP? Bah ouais, mais il est quand même pratique pour que les autres aient des députés. Tu préfères avoir 17 députés sans le PS ou en avoir 90 avec le PS? Un peu comme ça que se pose la question, hein, d'ailleurs. Est-ce que ça a déjà existé dans d'autres régimes des mandats impératifs? Le mandat impératif n'a jamais existé formellement. Par contre, il a existé en pratique pendant la Révolution française en France, lorsque des députés étaient assassinés par des électeurs mécontents lorsqu'ils revenaient dans leur circonscription. C'est à partir de ce jour-là qu'on a décidé d'écrire, alors je sais pas si c'était dans la DDHC ou je crois que c'est la DDHC, que les mandats impératifs sont interdits. Justement pour éviter ça. Pour se dire, mais en fait, ça n'a pas de sens de donner un mandat impératif en démocratie. La démocratie, c'est justement l'inverse du mandat impératif. Il ne faut pas de mandat impératif en démocratie. Sinon, tu tues toute forme de discussion, de négociation, d'évolution possible. Ça sert à rien de créer un parlement, par exemple, s'il y a un mandat impératif, ça ne sert à rien d'avoir un parlement. Il vaut mieux supprimer et raser le bâtiment ou en faire un musée, parce que ça n'a, y a pas de parlement dans un mandat impératif. On ne parle pas. On est, tout le monde ne fait que appliquer des contraintes. Ou alors, faut créer un algorithme gouvernant. Voilà, comme ça, le mandat impératif, bah, tu crées les conditions de l'algorithme, et ensuite, il applique bêtement. C'est ça le mandat impératif. Tu paramètres, et puis après, bah, c'est impératif, hein. Ah bah, c'est comme ça. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'ailleurs, l'interdiction du mandat impératif. Putain, et on se pose des questions à 19h un vendredi, sans déconner. DDHC, ta 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 ta. Là, sur les lois budgétaires. Ça, c'est le préambule de 46. Je sais plus où c'est. Article 27. Article 27 de quoi? Du préambule? Non. Ah ouais, putain, article 27 de la Constitution. T'as raison. Merci beaucoup. Article 27 de la Constitution, c'est pas dans la DDHC, j'avais un doute. Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. Pas de mandat impératif. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat. C'est quoi un mandat impératif? Un mandat impératif, c'est un mandat politique qui est enjoint d'une contrainte mise sur le mandaté de faire quelque chose. Un mandat impératif, c'est un mandat politique où la personne a l'obligation de faire quelque chose, une obligation contractuelle, une obligation je sais pas quoi, etc. C'est ça un mandat impératif. Comme quand t'es nommé et non élu. Non, ça n'a rien à voir. C'est quand tu reçois un mandat politique, en l'occurrence, pour aller siéger dans une assemblée, et que des électeurs te disent, je vote pour toi, mais par contre, t'as l'obligation de faire ça. C'est d'ailleurs une manière, alors c'est une manière très juridique, hein, pas très opérationnelle, mais philosophique, de lutter contre la mafia, par exemple. Dans les pays dans lesquels la mafia présente des candidats, etc., bah c'est des candidats qui en réalité ont des mandats impératifs. Tu veux qu'on te laisse te présenter? Ok. Eh ben en échange, si t'es élu, tu fais ça, ça, ça et ça. Et tu ne fais pas ça, ça, ça et ça. T'as une pression sur un élu qui est mise par un groupe mafieux qui lui dit, si t'es élu, tu nous obéis. Ça, c'est un mandat impératif. Pression, mais il n'y a aucune obligation légale d'obéir à la mafia. Ben non, puisque tous les mandats sont nuls. Les mandats impératifs sont nuls. Donc effectivement, légalement, le caractère impératif du mandat n'existe pas. Mais opérationnellement, la mafia te tient à l'œil. Elle hésitera pas à t'assassiner ou à faire pression sur toi pour te faire comprendre, pour te rappeler à tes obligations. Voilà. Mais après, c'est, enfin, l'interdiction des mandats impératifs ne veut pas dire que tu peux pas faire de la politique. C'est-à-dire, si les électeurs sont déçus de ce que tu fais, ils te réélisent pas. Terminé, merci, au revoir. Ça, c'est pas une pression mafieuse. T'as un programme politique. Fais gaffe à pas promettre aux gens des trucs que tu vas pas pouvoir faire. Sinon, s'ils sont déçus parce que tu les fais pas, c'est pas parce que c'est un mandat impératif, c'est parce que t'as fait une promesse qu'il fallait pas faire. Il est là ton problème. Donc ta cote de popularité s'est effondrée et t'as pas été réélu. Bah oui, mais ça, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, hein. On n'est pas obligé d'assassiner le député. Non. Non, c'est pas obligatoire. Non, non, tu peux juste ne pas voter pour lui à la prochaine élection. C'est une autre technique pour faire savoir son désaccord. Le mieux, c'est l'obligation de moyens, mais devoir justifier que tu as bien essayé de faire le max. Ouais. Non, mais c'est pour ça d'ailleurs que les politiques, quand vous les écoutez, ils essayent, la plupart, de pas faire des promesses en l'air. Ils essayent plutôt d'engager de la fin de s'engager à essayer, à faire le maximum pour que, à travailler en faveur d'eux, ce qui est une manière de ne s'engager que ce que sur l'on Je ne peux m'engager que ce que sur ce que je peux faire. Voilà, c'est ça que je. Oh putain, la vache. C'est comme quand tu prends un avocat, il peut pas s'engager sur l'issue du procès. Il peut pas s'engager, il sait pas. Mais il peut te promettre de faire le maximum pour toi, pour te défendre. Voilà. Bah, c'est un peu ça, un politique. Politique, c'est nos avocats. Donc ils peuvent pas nous promettre qu'ils y arriveront. Ils peuvent nous dire je vais tout faire, je vais y travailler, on va. Voilà. On va mettre les choses en place. Et puis après, voilà. Un médecin pareil. Ouais, un médecin pareil. Il peut pas te promettre une guérison. Mais il peut t'expliquer tout ce qu'il va faire pour essayer au maximum. C'est pour ça qu'il faut se méfier quand des politiques prennent des engagements un peu trop précis et chiffrés, tu vois. D'ici à 5 ans, il y aura X millions de je sais pas quoi. Quand Macron dit d'ici à je sais pas combien de temps, il y aura plus de personnes à la rue. Bah ouais, mais il faut pas dire ce genre de truc en fait. L'objectif est très noble, hein, c'est pas le sujet. C'est juste que c'est plus compliqué que ça en fait. C'est pas en claquant des doigts, ça prend du temps, c'est compliqué. Au moins, l'objectif est quantifiable, donc il doit rendre des comptes. Bah ouais, mais c'est ça le problème, c'est que. Enfin, bon, après, ils font ce qu'ils veulent, hein, les politiques, mais s'ils s'engagent auprès des gens sur des trucs quantifiés comme ça, dans des délais précis, bah, t'as intérêt à remplir ton objectif. T'as intérêt à être au rendez-vous. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est utile de faire preuve de précaution langagière quand on parle de ce genre de trucs en disant il faut qu'on fasse le maximum, je m'engage à mettre en place les dispositifs nécessaires pour parvenir à. Ok, ça c'est un engagement que. Ok, si tu t'engages à faire un truc qui effectivement est en ton pouvoir, et ensuite on réévaluera le dispositif en cours de route pour vérifier si on est toujours dans l'objectif. Et c'est bien, tu vois, c'est mieux de faire ça, quoi. Pour le coup, le SDF, c'est comme la priorité pour les violences faites aux femmes. Globalement, il n'a rien fait du tout. Personne ne l'a empêché. Mais c'est faux. Il a fait énormément de choses en direction d'eux. Mais pour un milliard d'autres raisons, ça n'a pas du tout remporté les résultats qui étaient escomptés. Visiblement, c'est pas. C'est pas grave d'être au rendez-vous ou pas, tant qu'on n'a pas vu les conséquences. Ouais. C'est un peu la foule à poule. Si les gens sont crédules à 100%, les politiques vont prendre ce type d'engagement. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Il y a effectivement un engagement. Enfin, il y a plutôt une responsabilité aussi d'une partie de l'électorat qui est moins regardante sur les résultats attendus. Ce qui nous gêne, c'est pas tant les actions qui ont été faites, c'est surtout le fait qu'on ne partage pas le même logiciel et que les actions de nos adversaires pour les mêmes combats que nous ont l'air hypocrites ou carrément contradictoires avec le combat quand on analyse les choses différemment. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, de toutes les manières, tu peux mettre en place tout ce que tu veux, la manière que tu as de mener les choses est tellement contradictoire avec la manière que moi j'ai de les voir que de toute façon, je peux pas y adhérer. Donc oui. Oui, il y a aussi de ça, ça c'est sûr. Si tu mets des marxistes au pouvoir, les libéraux vont pas être giga satisfaits par les résultats obtenus. D'ailleurs, risquent d'être assez mauvais. si tu regardes que des indicateurs de libéraux. C'est certain. C'est même assez sûr. Ce serait cool aussi un peu d'honnêteté que l'opposition dise quand des trucs bien sont faits. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est pas de eux qu'il faut attendre de faire le travail de communication positive du gouvernement en place. Mais là, si tu veux, sur la séquence Zelensky, par exemple, j'ai entendu pas mal d'opposants dire qu'ils étaient globalement satisfaits de ce qu'avait fait Emmanuel Macron. Macron est allé rencontrer Donald Trump pour essayer de le convaincre. Macron a engagé dans un sommet européen un investissement massif pour la défense en Europe. Bon, voilà. Si par ailleurs ils peuvent avoir des trucs à reprocher, moi j'ai eu l'impression qu'ils étaient. Ils l'ont peut-être pas dit comme ça, mais ils ont dit qu'ils soutenaient plutôt Emmanuel Macron dans ce dossier-là, quoi. Et beaucoup de responsables européens saluent aussi ce qu'a fait Macron. Ouais, je sais. Ouais. Bon, on en parlait hier sur Brexit, où ils ont été jusque dans les journaux à Kiev qui ont titré leur une sur Macron et son allocution. Donc, ouais. Macron est plus populaire à l'étranger qu'en France. Oui, alors, ça dépend quel étranger, ça dépend quelle strate de la population à l'étranger. Et puis par ailleurs, la popularité d'un chef d'État à l'étranger ne se mesure qu'à la perception qu'en ont les étrangers sur son action, notamment internationale, sur ce qu'il fait en France. Bon, je suis pas sûr que. C'est comme quand tu regardes d'un peu loin, tu vois, moi Justin Trudeau, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal, tu vois, j'en sais rien. En fait, j'en sais rien. Vraiment, j'en perçois que des bribes de trucs et tout. Si j'étais Canadien, croyant, pratiquant, peut-être que j'aurais deux, trois trucs à reprocher à Justin Trudeau pour un milliard de raisons. Tu vois, j'en sais rien, je sais pas. Je suis pas Canadien, donc je me pose ce qu'il fait et tout, tu vois. Donc oui, effectivement, oui, Emmanuel Macron. Est plutôt apprécié à l'étranger, et encore une fois, ça dépend à qui on demande et pourquoi, quoi. Il paraît que Trump a une grosse popularité sur Saturne. Non, c'est Musk, sur Mars. Il est très attendu sur Mars par les Martiens. D'un point de vue extérieur, Trudeau semble gotesque, mais avec une vision très limitée, quoi. Ouais, voilà, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'est-ce que ça veut dire de. Qu'est-ce que. Quelle valeur a mon opinion à moi sur. le chef de l'État, de je sais pas quel État, machin, j'en perçois quelque chose de là où je suis, mais de façon, je suis pas électeur, je suis pas sondé, on s'en fout. Bon. Par contre, ce que vous pensez de moi, ça, c'est central. C'est absolument central et déterminant pour l'avenir de la production sur Twitch. On ne peut pas passer à côté de l'évolution de la courbe de popularité. Parce que c'est ça qui entraîne le comportement d'abonnement. C'est ça qui valide le fait que vous allez cliquer avec le bouton gauche de votre souris sur le bouton violet s'abonner en bas de ma chaîne. Et que vous allez ainsi soutenir mes productions sur Twitch et me permettre de continuer à travailler, d'où la nécessité pour moi d'être dans un engagement vis-à-vis de vous et de vous faire des promesses électorales qui vont vous donner envie, un peu vous aliéner certes, mais vous mettre la bave aux lèvres en vous faisant croire que je vais vous emmener loger à l'enseigne des étoiles, quoi. Donc voilà, donc il faut que j'aille dans votre sens, c'est le principe de l'influence sur Internet et notamment de l'influence politique. Il faut que je vous dise que des choses avec lesquelles vous êtes d'accord. Il faut que j'ai une communauté homogène d'un point de vue idéologique et que je ne fasse rien d'autre que vous redonner à bouffer ce que vous bouffez déjà et ce que vous aimez bouffer. Donc, je ne dois aller que dans votre sens politique, vous brosser dans le sens du poil éternellement, n'inviter que des politiques qui sont déjà d'accord avec vous et avec lesquelles vous êtes déjà d'accord. Certainement pas des gens que vous n'aimez pas. Jamais. Sinon, ça risquerait de vous friter. Donc, non, non, il faut faire très, très attention à ça. L'homogénéité de la commu, c'est ça qui marche sur Internet, c'est cet engagement-là. Des bulles de filtre bien formées, des couloirs de nage dans lesquels vous êtes abreuvé quotidiennement de contenu qui va dans votre sens politiquement. C'est le plus important. La commu se renforce en s'épurant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous savez que c'est beaucoup ça, les contenus politiques sur Internet, hein, blague à part. L'entre-soi militant, le truc où le créateur de contenu s'adresse à une communauté pour ne lui dire que ce qu'elle a déjà envie d'entendre, c'est du 100% fanservice. Et t'as des, et t'as, et, voilà, t'as des influenceurs mascus comme ça, et toute la journée ils disent des trucs mascus à des mecs qui ont envie d'entendre des trucs mascus, et ça tabasse, etc. Et ça marche très bien, hein. En termes d'engagement de communauté, ça génère beaucoup plus d'abonnements de dire à des gens des choses qu'ils ont envie d'entendre, plutôt que les titiller, les faire chier, les faire réfléchir, prendre de la distance critique, etc. Bon, c'est pas grave. Ce que je fais n'a pas d'avenir, mais c'est pas grave. Les gens disent-nous des trucs mascus. Voilà, c'est ça. Continuez à vous titiller. À quand la boutique qui vend des compléments alimentaires? La boutique Jean Massier. Quel enfer. Non, mais je m'en branle. Je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait sur Twitch. C'est-à-dire vous embêter, vous forcer à réfléchir, nous forcer à réfléchir collectivement, nous empêcher justement de militer en rond là comme des cons, à se redire ce qu'on sait déjà, continuer à être surpris par l'actualité. Et puis voilà. Merci de soutenir cette chaîne, hein, si ça vous plaît. On va continuer, hein. Eh, on est bien, hein? On est ensemble, hein? T'as une académie pour devenir un mâle alpha? Faudrait que je fasse ça, faudrait que je fasse une formation. Faudrait que je fasse une formation où vous payez des milliers d'euros et vous recevez un PDF ou un PowerPoint chaque semaine et vous faites partie d'une communauté exclusive sur un Discord. Vraiment, t'imagines? La formation pour devenir des citoyens alpha. Et je vous envoie des PowerPoints une fois par semaine de trucs basiques. Genre vraiment de trucs basiques de Sciences Po première année, et même pas des trucs qu'on peut trouver sur Internet, sur le fonctionnement des institutions, sur machin et tout. et je vous market ça dans des vidéos insupportables où je vous fais des tunnels de vente pour devenir des citoyens alpha. Et je vous crée un Discord exclusif avec des formateurs agréés, que c'est moi qui les ai agréés. Enfin. Et je vous fais pondre des trucs par ChatGPT chaque semaine. Et c'est ça, et je market le truc comme un truc ultra exclusif. Et ultra exclusif, rejoignez le club, faites partie de l'élite. Extrêmement gênant. Uniquement pour les 200 premiers inscrits. Oui, d'ailleurs, il y a une promo en ce moment. Il y a une promo moins 50%. Au lieu d'être à 2 000 $, la formation est à 999 $. Un truc, je rejoignais le club Backseat. Eh, hey, Backseat, je vous ai jamais menti. Hein. Backseat, je vous ai jamais menti. Je vous ai jamais promis la lune. Je vous ai dit, vous allez avoir des nems et de la bière gratuite si vous venez dans le public. Vous allez avoir une émission en exclusivité, en replay, sans avoir à attendre le dimanche pour avoir toute la VOD. Voilà. Je vous ai dit que si vous avez la carte Backseat, vous appartenez à l'élite dans mon cœur. D'ailleurs, attendez, elle est dans mon portefeuille. Hein. La carte Backseat dans le portefeuille. Ou alors c'est l'autre, attends. Non, c'est bien celle-là. C'est bien celle-là. Voilà. Donc vous êtes dans mon cœur. Vous êtes dans mon cœur quand vous avez la carte Backseat dans votre portefeuille à vous. Est-ce que c'est la carte 000? Ouais, c'est la 0001. De la saison 3. Donc voilà, abonnez-vous. Hein. Tu peux nous envoyer ton cœur, Jean? Non, ça c'est réservé aux membres du club élite, Jean Massier, qui ont le droit à des visios avec moi. Et pour 1 000 $, vous avez le droit de me poser une question. Vous avez le droit de me parler pour 1 000 $. Voilà. Et pour 10 000, vous pouvez déjeuner avec moi. Voilà. Merci, hein. Merci à tous. Bon, sur ce, je vais rejoindre mon lit exclusif. On va faire un raid exclusif aussi chez un streamer exclusif qui s'appelle Mister JD. Bonne suite de stream avec Mister JD, mon ami exclusif, mes amis exclusifs, pardon, non, ça devient débile là. L'élite du stream. Je vous fais des bisous, merci d'avoir été là et passez votre meilleure soirée. Et puis on se retrouve peut-être ce week-end pour du Flight Simulator, je suis pas sûr, on verra. Des bisous, ciao!